Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous du Mantois, l'émission qui part chaque vendredi à la rencontre des élus en direct depuis leur bureau. Et aujourd'hui, c'est la municipalité de Goussonville qui nous a ouvert ses portes. Un très joli village de 624 habitants, limitrophe d'Épône et de Mézières entre autres. Aux confins d'un plateau et d'un bois, la variété des paysages s'ajoute au charme des vieilles maisons en pierre. Et avec nous pour en parler ce matin, Fabrice Lepinte, maire de la commune depuis 2014. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, nous allons aborder ensemble les différentes problématiques de Goussonville, mais aussi parler des travaux que vous avez réalisés et ceux qui sont à venir. Nous parlerons également du contrat rural que vous avez signé pour 3 ans et qui touche à son échéance, mais aussi d'un projet qui vous tient à cœur, la circulation douce entre le village et le hameau. Je vous propose de commencer par un des points contre lequel vous vous battez, qui est tout simplement les dépôts sauvages, la véritable bête noire des communes.
Alors oui, effectivement, on commence cette interview par les choses qui fâchent. Mais il me semblait important quand même de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet, je pense, d'abord partagé par l'ensemble de mes collègues. C'est devenu un véritable enjeu pour les communes rurales, ces dépôts sauvages, qui sont probablement liés au fait que, pour des raisons environnementales, écologiques, que tout le monde comprend, le traitement des déchets est de plus en plus cher, et par conséquent, certaines personnes ne souhaitent pas payer le prix, et préfèrent donc décharger leurs débris et leurs déchets en pleine nature. Alors évidemment, c'est quelque chose de très pénalisant, d'abord sur d'un point de vue environnemental, puisqu'il y a des déchets qui sont toxiques, et qui polluent la terre. C'est un problème d'un point de vue financier, puisque de les faire enlever, ça représente un coût pour la collectivité. Alors pour donner une idée, par exemple, actuellement on a 3 dépôts sauvages sur la commune, les devis s'échelonnent de 5 000 à plus de 10 000 euros pour faire retirer. Évidemment, ça est à la charge du contribuable, donc ce n'est pas acceptable. Et le troisième point, c'est que, comme je l'ai indiqué, l'augmentation du coût de retraitement des déchets fait que les taxes d'enlèvement des ordures ménagères augmentent, qu'il y a des contraintes de tri qui n'existaient pas avant. On peut que s'en féliciter, parce que bien évidemment, le fait qu'il y ait du tri et qu'on puisse recycler des matériaux, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement positif pour le développement de la planète et pour son avenir. Mais pour autant, ça représente un coût. Les contribuables jouent le jeu, et parallèlement, le fait de laisser avec une certaine impunité, faute de moyens de les arrêter, un certain nombre de gens être contrevenants à ce que les autres font par civisme, finalement, il y a là une espèce de déséquilibre qui est mal supporté par les habitants qui payent leurs taxes et qui se donnent la peine d'emmener leurs déchets en déchetterie. Donc ils ne supportent pas bien l'idée que d'autres, par manque de civisme, mettent ça dans la nature, au vu de tout le monde, et en particulier d'un certain nombre de promeneurs qui préféreraient profiter de nos jolis chemins ruraux sans avoir à piétiner des débris. Voilà. Donc c'est un vrai sujet contre lequel, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'outils pour lutter. Alors je profite de cette audience qui m'est donnée là pour peut-être faire appel à la fois au service de l'État, aux grands élus, pour qu'on nous donne des moyens de lutter contre cela. Parce que c'est effectivement extrêmement difficile. Il faudrait pouvoir prendre un certain nombre de contrevenants sur le fait, ce qui ne peut se faire qu'avec des moyens de type vidéosurveillance, mais les autorisations sont difficiles à obtenir. Mettre des caméras partout, techniquement, c'est pas facile. Il faudrait pouvoir faire en sorte qu'elles soient mobiles, de façon à ne pas déplacer le problème, parce que ça, c'est une des problématiques. Vous mettez une caméra à un endroit, une fois qu'elle est identifiée, vous avez un dépôt sauvage à un autre endroit. Donc l'idée n'est pas de protéger un endroit au profit d'un autre, mais de protéger l'ensemble du territoire de la commune, et de faire une espèce de continuité territoriale sur les communes avoisinantes aussi, pour que les déchets qui se retrouvent pas à Goussonville ne soient pas ni à Épône, ni chez mon collègue de Mézières. C'est pas l'objectif. Donc il faudra arriver à avoir une vision un petit peu plus globale de ce phénomène, pour essayer de l'endiguer de manière, je dirais, efficace.
Quand on parle des dépôts sauvages, pour bien expliquer à nos auditeurs, on ne parle pas de gens qui ont laissé des poubelles. On parle de particuliers, mais aussi parfois d'entreprises qui peuvent laisser des déchets toxiques tels que de l'amiante. C'est surtout ça qui pose un vrai problème environnemental aujourd'hui.
Alors, c'est un peu tout, mais effectivement, l'amiante étant le cas le pire, hein, malheureusement, on en a, parce que comme c'est un produit qui est extrêmement cher à recycler, c'est très polluant. Hein, donc, plus c'est polluant, plus c'est cher à recycler. Par conséquent, évidemment, la tentation est grande, quand on a de l'amiante, d'aller la déposer en pleine nature et de laisser ça à la charge du collectif. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, on trouve également du plâtre, hein, qui est polluant aussi. Quand c'est des déchets verts, c'est moindre mal parce que ça pourrit, c'est pas très esthétique, mais c'est au moins pas polluant. Voilà un petit peu ce à quoi on fait face.
Vous avez d'ailleurs proposé, et en tout cas fait voter une délibération pour pouvoir amender les dépositaires sauvages.
Alors exactement. Alors, je disais qu'on n'avait pas beaucoup d'outils. Alors, c'est mentir que de dire qu'on n'en a pas. Il y en a un qui a été mis en place par le Code de l'environnement il n'y a pas très longtemps. C'est un article de loi qui a été rajouté, je crois, il y a 2-3 ans, et qui permet, moyennant une délibération des communes, ce que l'on a fait, d'engager une procédure au civil contre les contrevenants. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez identifié un contrevenant, on peut donc établir une amende, un procès verbal et une amende, et c'est dès lors les impôts, le trésor public qui les poursuit, exactement comme quelqu'un qui n'aurait pas payé sa facture d'eau ou sa facture de, enfin, dès lors que c'est une facture publique ou son impôt, par exemple, la trésorerie a les moyens de poursuivre. Mais enfin, encore faut-il prendre le contrevenant sur le fait et être sûr que c'est lui, et c'est ça évidemment qui est complexe. Alors bon, encore une fois, hein, je l'appelle vraiment au service de l'État. On a besoin de la gendarmerie, notamment pour qu'elle fasse des contrôles et pour qu'elle suive les dossiers. Je les salue d'ailleurs au passage, puisque ce sont nos partenaires du quotidien. On a besoin des services de l'État, notamment de la préfecture, pour toute la partie administrative, législative, parce que nous, les petites communes, on n'a pas de service juridique, donc on a besoin de leur aide. Et je pense par ailleurs que, enfin, moi je m'en suis déjà ouvert à Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était venu en visite à la commune, que j'en profite pour saluer. Je n'en ai parlé parce qu'effectivement il y a probablement des choses à mettre en place au niveau de la législation, de façon à essayer de régler ce phénomène, mais à l'échelon national. Je pense par exemple à des systèmes de contrôle qui viserait à vérifier auprès des entreprises qu'elles ont les entreprises qui sont potentiellement productrices de déchets, qu'elles ont bien des factures d'élimination et de recyclage de ces déchets. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle.
De façon à prouver qu'elles ont bien retraité les déchets dans les bonnes conditions.
De façon à prouver qu'elles ont bien retraité les déchets dans les bonnes conditions, parce que un des profils que nous connaissons, parce que même si on n'arrive pas forcément à l'identifier, on sait quand même de quoi il s'agit. Il s'agit souvent d'entreprises qui facturent, et qui vont facturer une démolition, par exemple, à un particulier, qui vont facturer des frais de recyclage des matériaux qui ont été démolis, et qui, pour faire une économie, vont aller déposer ça en pleine nature. Alors, certes, il y a peut-être des efforts à faire pour rendre, pour faire en sorte que les coûts, notamment pour les entreprises, baissent, parce que il faudrait un système incitatif. C'est vrai que si c'est une charge lourde, bah, ça incite pas les gens non plus à faire preuve de civisme. Mais ce qu'on donne d'une main, il faut le reprendre de l'autre, c'est-à-dire peut-être aussi plus de sévérité et mettre en place des systèmes de contrôle, notamment sur les factures de recyclage de ces déchets.
Les propositions sont donc lancées. Vous faites partie des communes qui ont signé un contrat rural. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est ?
Alors, le contrat rural, c'est un dispositif qui est tripartite. C'est donc la région, le département et la commune. Et c'est un dispositif qui permet, sur une programmation de 3 ans, de mener à bien un très grand nombre de projets, parce que les thématiques qui sont abordées par le contrat rural sont extrêmement larges. Donc il y a vraiment des subventions pour tout type de projet, pour les petites communes, hein. Ça peut très bien être la construction d'une salle polyvalente, d'un jardin, c'est très très large. Et c'est très intéressant parce que c'est un dispositif qui permet d'être subventionné à 70% avec un plafond à 600 000 euros, c'est-à-dire 600 000 euros de dépenses, hein, hors taxes. Enfin, 600 000 euros de dépenses hors taxes pour une petite commune, c'est déjà très confortable, une subvention à 70%, ça laisse une charge à la commune assez faible, hein, et ça permet quand même de mener un certain nombre de projets. Donc je profite pour remercier le département et la région de leur participation. Et je voudrais ajouter que la région et le département ont énormément de dispositifs en place à l'attention des petites communes, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire sans ces organismes de péréquation qui sont vraiment absolument incontournables aujourd'hui pour une commune de notre dimension.
Et justement, vous avez pu réaliser plusieurs projets grâce à ce contrat, comme la création d'un terrain de jeu à l'entrée du village.
Alors exactement, on a réalisé un terrain de jeu à l'entrée du village parce qu'on souhaitait avoir un lieu qui soit un peu partagé par tous, un lieu pour les enfants et un lieu un petit peu ludique. D'ailleurs, on a appelé ça le terrain ludique, de façon à ce que les enfants des communes rurales, s'ils n'ont pas ce type d'équipement, il n'y a pas de cinéma, donc c'est pas forcément toujours facile de s'occuper. Donc on s'était dit qu'il y avait besoin d'un lieu pour tous les âges, pour que les enfants puissent jouer. Donc il y a un mini terrain de foot dessus, il y a une petite piste de VTT, il y a une piste pour les joggeurs, et il y a des jeux pour les plus petits, des jeux d'adresse, des toboggans, des choses comme ça. Et finalement, ce lieu qui a été au départ pas toujours bien perçu par une partie de la population, finalement fait son office parce que il réunit beaucoup de gens. J'ai eu plusieurs retours positifs de parents qui me disent ah bah c'est sympa, on vient après l'école et puis on rencontre d'autres parents. Donc on a complété un peu le dispositif en mettant également des dispositifs cardiovasculaires pour les personnes un petit peu plus âgées.
Des formes d'agrès,
voilà, pour faire en sorte que quand les grands-parents, par exemple, viennent avec les petits-enfants, qu'ils puissent eux aussi se tenir en forme en faisant ou du jogging ou en utilisant ces agrès.
Vous avez aussi des projets avec les enseignants sur ce terrain.
Alors, on a des projets avec les enseignants sur ce terrain. Parce que on a voulu mettre un petit peu beaucoup de choses au même endroit. On y a également installé un verger, parce que je considérais que c'était quand même intéressant pour des enfants d'une commune rurale d'avoir conscience, notamment dans le cadre du développement durable, de ce que c'est qu'un arbre, du temps que ça met à pousser, et qu'on souhaitait qu'il puisse y avoir un travail pédagogique autour de ces sujets-là. Donc on leur a mis à disposition un verger, ce qui leur permet de cueillir des fruits en sortant de l'école, et on leur a mis également à disposition des bacs de permaculture qui permettent aux enseignants de faire de la petite culture et de montrer aux enfants ce que c'est qu'un jardin, comment ça pousse, et puis de développer un contenu pédagogique autour de ces sujets-là, qui sont, encore une fois, je pense, des sujets importants pour le développement durable. Tout le monde en parle. Bah voilà, c'est une manière de le pratiquer à Goussonville.
Il y a aussi l'orangerie qui a pu bénéficier de ce contrat rural.
Alors, il y a également l'orangerie, effectivement, que l'on a viabilisé dans le... L'orangerie est un bâtiment qui a été acheté par mon prédécesseur. Mais il n'y avait pas d'accès. Donc, on a créé un accès grâce aux subventions du contrat rural, et on a préparé la viabilisation, puisque on est en réflexion pour savoir un petit peu ce qu'on ferait de ce bâtiment. Alors il y a plusieurs hypothèses qui sont en lice. J'ai d'ailleurs une réunion lundi prochain de mon conseil municipal où on va rediscuter un petit peu des projets, puisqu'on est à mi-mandat, des projets de la fin de mandat, et de réfléchir effectivement à ce qu'on pourrait faire de cette orangerie dans le cadre d'un nouveau contrat rural, puisque celui dont on est en train de parler arrive à son terme. Je suis même un petit peu en retard pour le clôturer. Voilà.
Justement, le contrat dure 3 ans. L'échéance, vous le dites, est bientôt arrivée. Est-ce que vous pensez déjà au prochain et comment vous le pensez ?
Bien entendu qu'on pense au prochain, mais notamment justement pour essayer de mener tout ce qui n'a pas pu être mené dans le premier, notamment parce qu'on n'était pas forcément on n'avait pas finalisé, les projets n'étaient pas finalisés. Là aujourd'hui, il y a un sujet avec cette orangerie, donc de réhabiliter le bâtiment pour en faire peut-être un lieu culturel. Enfin, je vous dis encore une fois, il y a plusieurs hypothèses, donc elles seront toutes étudiées à la loupe. Et on consultera probablement la population du village pour faire des propositions, voire ouvrir peut-être une boîte à idées dans un premier temps, puis évaluer la faisabilité de chacune des propositions pour ensuite en sélectionner trois qui seront soumises peut-être à, en tout cas, peut-être pas un référendum, mais en tout cas un sondage d'opinion pour voir ce que les gens préféreraient voir à côté de chez eux. Et puis, ça fera l'objet, effectivement, de ce nouveau contrat rural avec d'autres projets qui avaient été annoncés lors de notre campagne électorale, notamment peut-être la création d'une micro-crèche. Mais c'est également un projet qui demande un peu à mûrir parce que je ne souhaite pas qu'on puisse, en mettant ce dispositif à disposition des habitants, qu'on soit par exemple, qu'on pose un problème à d'éventuelles assistantes maternelles. Alors je sais qu'aujourd'hui sur la commune, il n'y en a plus que deux, dont une qui est probablement, de ce que j'en sais, pas loin de prendre sa retraite. Donc il y aura une discussion avec les acteurs du métier pour voir si finalement ça ne fait pas double emploi. Et si ça ne fait pas double emploi, c'est peut-être un projet, dès lors que le conseil municipal le partage, qui pourrait faire l'objet du prochain contrat rural.
Il y a aussi la remise en état du lavoir qui va bientôt...
Alors la remise en état du lavoir, elle est sur le premier contrat rural, en même temps que le terrain ludique et les aménagements dont on a parlé à l'orangerie. Ainsi qu'également d'autres aménagements, mais qui sont liés aux personnes à mobilité réduite. On a quelques travaux à faire pour mettre les bâtiments en conformité, et une partie de ces travaux sont encore sur l'ancien contrat rural. Donc on va les terminer dans l'année qui vient et tirer un bilan de tout ça pour ressouscrire un contrat rural avec de nouveaux projets.
On en parlait en préambule, un autre projet qui vous tient à cœur, un projet qui avait d'ailleurs été lancé par l'ancien maire, très demandé par les habitants, c'est la mise en place d'une circulation douce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la problématique ?
Alors la problématique, elle est très simple. Goussonville est un petit village, mais qui est en deux morceaux. Il y a un centre-village et il y a un hameau, qu'on appelle le hameau Canada, qui est situé à peu près à 800 mètres du centre-village. Et pour relier ces deux hameaux, c'est la départementale 130 qui est assez passante, hein, puisqu'on est situé, nous, entre Septeuil et Mézières, et que c'est un axe qui permet le rabattement vers les gares. C'est par conséquent un axe routier avec beaucoup de circulation, qui a une particularité, c'est que de chaque côté de la RD 130, sur le tronçon qui relie le centre-village au hameau Canada, il y a de part et d'autre deux fossés, qui sont en fait des fossés pour récupérer les eaux de pluie, hein, donc qu'on appelle la rue Bay, enfin c'est le rue de Seineville, hein, pour ceux qui connaissent le rue de Seineville. C'est donc la captation de toutes les eaux pluviales du bassin versant. Et cette rue Bay, elle a de l'autre côté de la route un trop-plein qui se matérialise sous la forme d'un deuxième fossé, et donc la voie de circulation est coincée entre ces deux fossés, donc très très peu d'accotement, et évidemment une circulation piétonne ou vélo extrêmement dangereuse parce que la route est sinueuse, donc difficile de mettre des radars. Et encore une fois, très circulante, dans un sous-bois qui plus est, et pas éclairé. Le deuxième problème qui vient se greffer là-dessus, c'est que le circuit scolaire du bus de ramassage fait que il passe d'abord par le hameau Canada, puis relie le centre-village Goussonville, mais en faisant une boucle par d'autres villages. Par conséquent, la tentation pour les enfants est grande de descendre au 4 août, hein, donc est l'arrêt qui correspond en fait au hameau Canada, et de cheminer à pied le long de cette départementale pour faire l'économie du temps de la boucle qui les ramènerait dans le centre du village. Alors évidemment, cela pose un problème. Moi, je souhaite que nous allions le plus vite possible pour mettre en place cette circulation douce. Malheureusement, en 2016, nous sommes rentrés en communauté urbaine. La communauté urbaine a ceci de particulier qu'elle détient un certain nombre de compétences, dont la voirie et la mobilité. Or, il se trouve que les circulations douces... Ce sont des projets qui dépendent de la mobilité, de la compétence mobilité. Malheureusement, donc, le projet a été assez avancé, mais du fait du passage en communauté urbaine, il a été arrêté, et aujourd'hui, je suis à la manœuvre, notamment avec l'aide de notre présidente Cécile Zamit-Popescu, pour essayer de faire en sorte que ce projet voie le jour, parce que, de mon point de vue, il a pris du retard du fait de tous ces transferts de compétences, sachant que cette communauté urbaine s'est quand même construite dans l'urgence en 2016, à la demande de l'État. Voilà. Et que probablement que la circulation de Goussainville n'était pas le projet le plus porteur pour la communauté urbaine, ce qui est logique, hein, puisque c'est un projet, c'est vraiment une infrastructure purement communale.
Eh bien, en tout cas, on ne manquera pas, hein, de suivre, bien sûr, l'évolution de ce projet. Et ce sera le mot de la fin de notre rendez-vous du Montois à Goussainville. Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus.
C'est moi qui vous remercie.
Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. J'en profite pour remercier notre réalisateur Robin à la technique ce matin. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour votre journal d'information locale. Tout de suite, c'est le retour de la matinale de Pauline et Fredo.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.